L'écran radiophonique nous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
ici. Vous ne vous souvenez pas? Non, j'ai eu un accident de voiture. J'ai oublié beaucoup de choses. J'ai compris. Nous étions très amis. Il arrête et lui dit. Est-ce que je vous ai dit que j'avais perdu la mémoire? Vous allez me raconter des salades pour me draguer. Non, pas du tout. Est-ce l'air de quelqu'un qui cherche à draguer une fille? Il la regarde bien, lui. Non. C'est l'air même d'une personne assez sympathique pour un inconnu. Mais je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Peut-être parce qu'elle le trouve joli garçon et gentil. Merci. Si vous voulez, nous allons boire un verre. Elle lui fait. Je veux bien. Non, je ne sais pas. Il lui dit. Au nom de notre ancienne amitié. Elle lui fait. Que j'ai oublié. Moi non. Alors, viens boire un verre. Bien. Je veux bien. Et elle le suit. Qu'elle n'a pas envie de rentrer chez elle. Elle lui demande, que faites-vous dans la vie? Il lui répond, pas grand-chose. Je cherche du travail. C'est un peu particulier pour moi. Je suis partie de ces personnes qui sont ni intellectuelles ni manuelles. Je fais quoi comme études? Je les ai toutes ratées, dit Frédéric. Il quitte le parc. Et il l'emmène dans un café, un grand café. Ils sont entrés. Le café est décoré 1900. Il y a du monde. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Les serveurs habillés en serveurs vont et viennent dans la pièce. Trouve une place, s'y assoivent, l'un en face de l'autre. Il lui dit, les cafés sont toujours remplis d'étudiants. On croirait, c'est qu'ils passent plus de temps dans les cafés que dans leur amphi. Le serveur vient à eux, petit mince, dans les 16 ans. Frédéric demande, qu'est-ce que vous désirez boire? Il lui répond, comme vous, un de jus de pomme. Et le serveur s'en retourne, et lui demande, comment nous sommes connus? Il lui dit, vers le parc Monceau. Enfin, pas vraiment le parc, mais avenue de Courcelles. Elle rit. Il lui demande, pourquoi riez-vous? Elle lui dit, c'est impossible. Et puis, l'avenue à mon nom. Mais oui, c'était pas un C, mais un S. Mon nom a un S au lieu d'un C. Vous me faites marcher? Non, je vous assure. Le serveur leur apporte leur boisson. Frédéric paye. Elle lui dit, je peux payer? Il lui dit, c'est moi qui vous invite, mais vous êtes sans emploi. Il lui dit, je suis pas pauvre, merci. Ils boivent en silence. Elle lui dit, et nous avons sympathisé? Oui, elle lui fait, je m'en souviens plus. Il lui dit, vous semblez plus, disons, décontracté et plus sûr de vous. Beaucoup plus que maintenant. Qu'est-ce que je faisais? Vous vivez seul à Paris. Votre père était parti à Monte-Carlo. m'aviez dit qu'il était monégasque. Elle rit. Là, vous êtes vraiment trompé. C'est pas mon père. Mon père est bien parisien. Il n'a jamais vécu à la borne. Il ouvre les épaules et lui dit. C'est vous qui m'aviez dit ça. Moi, j'en sais rien. Et puis, si ce n'était pas vous, je m'en moque. Je vous trouve très séduisante. Merci. Et nous sommes devenus amis? Oui. Elle lui demande. Très amis? Assez? Oui. Elle est triste, rouge. Elle ne voit pas. Ne voit pas avoir une relation avec ce garçon. Même avec celui-là qui semble être un bébé. Elle lui demande, et d'une fois que nous sommes vus, c'était quand? Il lui dit, je ne vous ai plus vu tout d'un coup, comme ça, ça m'a fait de la peine. Et puis, je me suis dit que vous vouliez voir ailleurs. Tu étais très changeante et indépendante. Il y a longtemps de ça? Il répond. Quelques mois déjà? Elle lui dit, je m'en souviens plus. Je sens gênée. Et se lève. Je dois m'en aller. Lui aussi se lève et sort du café. Nous avons vécu ensemble. Il lui répond, oui, pendant un moment. Elle réfléchit, il ment. Je peux voir où nous avons habité? Oui, il veut lui demander de le faire. C'est ridicule, mais elle veut voir. Elle lui dit, c'est simplement pour voir, je sais pas. Mais ne vous mettez pas des idées en tête. Il lui sourit et se met en route. C'est qu'il serait bien de prendre un taxi. Et lui demande, pourquoi? C'est loin? Un peu, oui. C'est dans l'île de la cité. Elle lui dit, je ne vais jamais de ce côté-là. Et ça ne me dit rien. Il lui dit, pourtant, c'est un endroit charmant. Venez. Il voit un taxi arriver à eux. Frédéric lui fait signe pour s'arrêter. Il s'arrête. Le chauffeur, un gros homme, à moustache, lui demande. Vous voulez aller où? Frédéric lui répond. Rue des Petits Pas, dans l'île de la Cité. Bien, entrez. Ils entrent dans le taxi et le chauffeur va mettre en route le taxi. Frédéric dit à Florence, allô, j'avais tout oublié. Oui, il lui dit, je dois être triste pour ceux qui vous ont aimé. Ils sont obligés, c'est de recommencer à vous séduire. Il lui dit, pour une personne qui aime, ce doit être agréable de chercher à constamment plaire à celle qu'il aime. Il lui dit, peut-être bien, mais on a peur que la personne ait changé et ne vous aime plus, comme vous par exemple. Vous semblez ne pas être attiré par moi, et pourtant, elle lui dit, laissez-moi du temps. Laissez-moi du temps de vous reconnaître. Et puis, j'y suis pour rien. Mettez-vous à ma place. Ce que vous dites est la vérité. Il lui dit tout joyeux. Alors, je peux croire que tout peut vous revenir et que tout peut revenir comme avant. Vous allez m'aimer comme vous m'avez aimé. Elle dit ça d'une façon si franche qu'elle sent qu'il a parlé avec son corps. Ça l'émeut. Sourit en voyant ce charmant jeune homme qui semble à un bébé, qui ressemble à un bébé. Elle lui dit, je ne sais pas si je vous ai aimé, mais je crois que vous méritez de l'être. Il sourit et lui dit, merci. Et lui dit, je n'ai pas dit que je vous ai aimé ou que je vous aimais. Et pour le moment, je suis comme dans un brouillard. Je ne sais plus rien. Il faut que j'y réapprenne à voir. Même les sentiments, il lui dit, pourquoi ne pas les apprendre avec moi? Elle sourit et lui dit, je ne sais pas. Il lui dit, je serai un très bon professeur, vous savez. Et lui dit en riant, vous m'avez dit que vous me laissiez le soleil tranquille. Il lui dit, oui, je vous laisserai tranquille. Elle lui dit, mais vous m'avez dit que vous ne saviez rien. Il lui dit, sauf en amour. Le taxi s'était arrêté dans une petite rue pavée faite de vieux immeubles, de peu d'étages, c'est assez coquet malgré tout, il y a des fleurs aux fenêtres. Elle a regardé tout ça avant de descendre du taxi. Frédéric, après avoir payé, la voix est demande, vous vous souvenez? Elle lui dit, non, ça ne me dit rien du tout. Il lui dit, ça vous reviendra. Elle lui fait, c'est très beau. Il sourit, venez. Elle le suit et se demande pourquoi elle le suit. Peut-être va-t-il lui apprendre des choses sur sa personne. Est-ce que quelque chose lui dit que son père ne doit pas être aussi lisse qu'on veuille lui faire croire et qu'elle non plus n'est peut-être pas aussi lisse que son père lui dit. Des fois, elle a des poussées de fièvre qui lui demandent que sa vie étriquée qu'elle mène ne lui suffit pas. Elle a besoin d'air, de courir, d'être libre, mais se dit que ce doit être dû parce qu'elle est toujours enfermée. Et puis qu'elle est devenue peut-être très sensible à cause de son accident. Elle lui dit, c'est très beau. Il lui sourit, venez. Elle le suit et se demande pourquoi elle le suit. Peut-être vas-tu lui apprendre des choses qui sont passées. Oui, peut-être vas-tu lui apprendre des choses de son passé. Des fois, elle est poussée de fièvre. Elle lui demande si sa vie étriquée qu'elle mène lui suffit. Elle vient de changer d'air, de courir, d'être libre. Mais elle se dit que ce doit être dû parce qu'elle est trop restée enfermée à cause de son accident. Il a fait entrer dans une allée de l'immeuble qui est un passage qui mène à une cour très coquette, pavée. Se trouvent des rosiers grimpants contre les murs de la cour. Au fond de cette cour se trouve une petite maison de deux étages, ancienne, sans âge, mais jolie. Il lui dit, c'est ici. Oui, c'est ici. Elle regarde autour d'elle et lui dit, c'est très joli. Mais je me souviens de rien. Elle étudie. Venez, allons voir l'appartement. Il la fait entrer dans la petite maison. L'allée sans la cire, les escaliers sont en bois, la rampe aussi, les murs sont crépis blancs, ils vont jusqu'au dernier étage. Il va pour ouvrir l'appartement de droite. Il y a deux appartements dans l'allée. Lorsque la porte de l'appartement d'en face s'est ouverte, apparaît une femme grande, maigre, cheveux gris, robe à fleurs bleues.
C'est toi, Frédéric?
Oui, c'est moi, Madame Roland.
J'ai entendu du bruit, j'ai eu peur.
Ce n'est que moi.
J'en suis très heureuse. Il faut faire très attention à notre époque. Il se passe tellement de choses. Une jeune fille de 23 ans a été retrouvée chez elle, égorgée. On pense qu'elle a fait entrer chez elle une personne qu'elle ne connaissait pas. Mais Elle a dû rencontrer dans une rue. Ah, et dire que ce quartier était si tranquille. Avant, tout le monde se connaissait. Frédéric lui dit, d'après ce que je sais, il paraît qu'elle n'a pas été tuée chez elle, mais que le corps a été mis chez elle. Faut faire croire qu'elle a été tuée chez elle. Madame Roland lui dit, oh, mon Dieu, quelle horreur! Et puis, les filles maintenant vont avec n'importe qui, des inconnus, dans la rue, qui les conduisent. Et voilà. Il regarde Florence. Et dès qu'il dit, ces jeunes filles me connaissent. Elle lui dit, je croyais que j'étais la seule dans votre cœur. Et Dédé sourit, lui dit, mais vous l'êtes. Il va vers elle et lui donne un baiser sur la joue. Elle lui dit, enfin, je suis bien heureuse que vous ayez trouvé une jeune fille. Allez, je vous laisse.
Et elle rentre chez elle.
Florence a tout entendu. Elle n'a plus du tout envie de rentrer chez ce garçon. Il ouvre la porte de son appartement. Elle lui dit, je dois vous laisser. Il lui dit, vous voulez pas venir y jeter un coup d'œil? Ça vous rappellera peut-être quelque chose? Elle lui dit, non, et puis j'ai la preuve que je suis jamais venue ici. Comment? Ben, votre voisine ne m'a pas reconnue. Elle lui dit, elle ne pouvait pas, elle vient tout juste d'aménager ici. Elle lui dit, moi, ça ne me rappelle rien du tout. Lui demande, vous avez peur? Elle hausse ses épaules et lui dit, est-ce l'air si dangereux que ça? Elle lui dit gênée, non, allez, venez. Elle entre.
Il ferme la porte de son appartement. Il a fermé la porte de son appartement derrière elle. Il lui dit,
ça ne vous rappelle rien? Vous êtes ici chez moi, venez voir.
Il lui prend par la main et l'amène au milieu de la pièce. C'est une grande pièce qui est un living. Avec des meubles, un rodin, mur crépi blanc. Il y a des rayonnages sur le mur pour les livres et les CD et la chaîne Wi-Fi. Coin cuisine, quelques plantes vertes, une grande fenêtre sans rideau. Le sol, c'est du parquet. Elle regarde tout ça. Il lui demande, ça ne vous rappelle quelque chose? Il lui dit, non, rien. Mais c'est très joli. Il lui dit, bien sûr que c'est très joli. Vous aimiez beaucoup. Elle regarde autour d'elle et lui dit, oui, c'est vrai que ça me plaît. C'est, en tout cas, plus vrai, plus chaud. Où j'habite, là au moins, c'est bien. Chez mon père, ça ressemble à un musée. Oui, j'aime bien. Et lui dit, j'en suis très heureux, parce que vous avez retrouvé vos goûts. La mémoire va vous revenir, vous allez voir. et lui dit
« Si elle me revient et que vous y êtes, cela voudra dire que ma vie a été plus complexe que je ne le pensais. » Il soupire et lui dit « Ça me fait peur. »
Il lui dit
« Peur de quoi ? De retrouver mon amour ? Non. Parce que je ne sais pas où, si je le sais, que je ne suis pas celle, si autrement je ne serais pas celle que je crois être. Ce serait terrible d'apprendre que l'on est une autre. Il s'approche d'elle et lui dit, pourquoi de savoir que vous m'aimez? Vous m'aimez? Vous en aimez un autre? Et cet autre vous fait peur? C'est de savoir que vous m'avez aimé? Ce n'est pas très gentil, ça, d'avoir peur de savoir que vous m'avez aimé. Elle lui dit non. Et il lui dit, est-ce que je mérite pas d'être aimée? Elle lui dit, je ne dis pas ça. Elle lui dit, alors? Elle lui dit, ce n'est pas de ça que j'ai peur, mais de moi, d'apprendre que j'ai été une autre. Il lui demande, mais qui êtes-vous maintenant? Elle lui dit, ce que je suis. Je suis ce que me disent les autres. Ce que je suis, c'est ce que l'on me dit. Et ce qu'on m'a dit qui j'étais, une personne qui ne pourrait pas avoir de relation avec un jeune homme. Et il demande, et pourquoi? Parce que il n'y a pas de place pour vous dans la vie que l'on m'a dit que j'avais vécu. Et il lui dit, faut-toi toujours croire à ce que l'on vous dit. Vous avez perdu la mémoire et l'on cherche peut-être à profiter de votre handicap pour chercher à vous amener à des goûts et à être une autre personne. Et soupir, elle dit, je sais pas, et puis je ne veux pas le savoir. Il est impossible de dire en ce moment qui je suis, et puis comment, qui pourrait faire ça, ma famille? Vous? Il lui dit, mais non plus, vous ne les connaissez pas ou plus, puisque vous avez perdu la mémoire. Elle panique. Il lui demande, pourquoi les croyez-vous? Parce que c'est ma famille.
J'en ai sûr. Elle lui dit,
assez, je ne sais pas. Et vous non plus. Je veux m'en aller.
Se dirige vers la sortie, lui dit,
non, restez, Rose.
Et sursaute.
Pourquoi, Rose? Pourquoi, Rose?
Il lui dit,
parce que c'est votre nom. Je m'appelle Florence.
Il lui dit, Rose,
Florence maintenant. Qu'importe, restez. Je vais vous montrer le reste de l'appartement. Laissez-moi encore une chance.
Laissez-moi cette chance. Et soupir. Venez.
Je me suis...
Fond de la porte, il y a une...
Je me suis trompé. Là, c'est pas Rose qu'il aurait dû me dire, mais Florence.
L'ouvre et la fait entrer. C'est une chambre. Chambre à deux lits. Meuble campanard. Le lit n'est pas fait. Je trouve à terre des vêtements en désordre. La porte de l'armoire est restée ouverte. Elle regarde tout ça et lui demande. Vous vous souvenez? Il lui dit. Non. La porte à côté, c'est la salle de bain. Ça ne vous rappelle rien? Elle lui dit. Non. Rien.
Je me suis bien trompé. C'est pas Rose, hein, c'est Florence qu'elle s'appelle. Qu'il aurait dû dire. Il aurait dû dire pas Rose, Flore, je veux dire.
Oui, très lâche. Ces discussions, cette discussion, ces questions. Il voit qu'elle se sent fatiguée. La prend dans ses bras et la mène s'asseoir sur le rebord du lit. Vous êtes fatiguée? C'est rien. Voulez voir quelque chose? Non, ça va, ça ira, merci. Si vous cherchez un jus de fruit. Eh, il sort de la pièce. Elle regarde autour d'elle. Elle est vraiment très lasse. Tellement lasse qu'il faut qu'elle s'allonge. C'est ce qu'elle fait. Il revient avec un verre à la main, le jus d'orange, se penche. Vous n'êtes pas bien? Elle lui dit, si, ça va mieux. Se soulève, lui tend le verre et l'aide. Ça vous fera du bien, merci. Il aide à se rallonger. Pose le verre à terre, se penche sur elle pour l'embrasser. Elle sent ce doux corps contre elle, ce visage charmant et doux. Alors elle se laisse embrasser. Il l'embrasse doucement, délicatement, pour ne pas l'effaroucher. Elle se donne à lui, elle se sent bien contre lui, veut tout oublier. Lui est heureux. Une fois qu'il est embrassé, elle tourne la tête. Et là, elle voit sur la table de nuit, dans un cadre, une photo. Effrayée, elle se dégage. Il est surpris. Il n'a pas eu le temps de se dégager. Elle court pour sortir à l'appartement. Il court après. Où vas-tu, qu'as-tu? Elle ne répond pas. Elle sort de l'appartement. Descend les escaliers. Il lui court après. Il lui court après. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Une fois dehors, effrayé par la rue, voit un taxi, le L. Il s'arrête, ouvre la portière, et entre. Elle dit « Vite !» Le taxi se met en route. Chauffeur du taxi, un petit à cheveux blancs lui demande « Vous voulez aller où ?»«
Avenue Foch, Avenue Foch. »
Ouais, c'est la dernière qui se dit ça. Une fois, arrivée près de chez elle, la tête en feu, mais seule à l'interphone du portail.
Oui,
c'est moi. Bien, mademoiselle. Elle est rentrée dans la propriété. Elle se dit,
moi, quoi ?
Sonne à la maison. C'est la bonne qui l'ouvre.
Bonjour, mademoiselle.
Bonjour, elle entre. Et la tête qui tourne, vite, elle monte dans sa chambre. Et là, j'ai enfermé à clé. S'allonge sur le lit. La pièce baigne de lumière. Ça lui fait mal aux yeux, cette lumière. Grand, les choses sans relief. Comme ce que l'on veut qu'elle soit. Mais qui est-elle? Cette clarté lui donne mal aux yeux. Elle les ferme. Mais en les fermant, elle est, se sent trop dans le sombre. Elle a peur de voir des choses troubles et moins lisse, comme dans ses cauchemars. Oui, comme dans ses cauchemars. Alors elle ouvre les yeux. C'est bon de se laisser guider, accepter tout ce que l'on dit. Rien de terrible. On a frappé à la porte.
Mademoiselle, vous vous sentez bien?
C'est la gouvernante.
On vous a vu un peu triste en entrant.
Oui, bien sûr. Elle est constamment surveillée. Toujours prouver qu'elle est bien et qu'elle ne se pose pas de questions. Elle lui dit,
ça va, je me repose un peu, j'ai beaucoup marché. Vous voulez un petit remontant?
Non, merci. Et la gouvernante s'éloigne. Elle sent qu'elle a la clé et qu'elle peut entrer dans sa chambre à tout instant. Oui, à tout instant. Vu la photographie, c'est bien elle qu'elle a vue. Et si c'est elle, Frédéric a dit la vérité. Mais s'il a dit la vérité, alors elle ne sait pas, elle n'est pas ce qu'ils disent. Elle est une autre. Alors pourquoi veut-on qu'elle soit celle-ci? Pourtant, elle n'a rien reconnu. Chez le garçon, et même pas lui, mais là non plus, elle ne reconnaît rien. Et puis, a-t-elle bien vu la photo? Elle ne sait plus.
Une heure plus tard, elle se lève, se change. Elle met un petit tailleur crème et sort de la chambre. Elle va au salon. Il est déjà tard. Son père ne va pas tarder. Là au salon, s'assoit dans un fauteuil et attend. Le jour baisse.
Entrez.
Madame. Domestique vient éclairer les lampes. Plus tard, il fait complètement nuit. Elle a entendu du bruit. C'est son père qui rentre. Elle soupire. Elle a frappé à la porte.
Entrez.
C'est son père qui est rentré. Il va à elle.
L'on m'a dit que tu n'étais et que tu étais ici. Mais que fais-tu? Tu m'attendais?
Il se penche pour l'embrasser au front. S'assoit en face d'elle. Appuie sur le bouton de la sonnette qui est sur la table basse. Pour faire venir un domestique, il lui demande
« Tu as passé une bonne journée ?»«
Oui. »«
Tu es sorti ?»«
Oui, un peu. » »«
Lorsque tu es entré, tu étais tout excité. »
Elle lui dit « C'était rien, père, rien du tout. »
« Entrez. »
C'est un domestique.
« M'apporterai mon bourbon. Et toi, ma chérie, tu veux boire quelque chose ?»
Elle lui dit « Non, merci, père. »
Il lui dit « Comme tu voudras. Alors, un bourbon. »«
Bien, monsieur. » Et la domestique s'est retirée. Le père lui demande
« Y a quelque chose qui te chagrine ?»«
Non, rien. »
Entrez.
C'est un domestique qui vient avec un verre et la bouteille de bourbon. Le vient le porter au père.
Merci.
Et se retire. Il boit une gorgée.
Faudra peut-être c'est que tu ailles te reposer à la campagne.
Non, j'ai mieux rester ici, près de vous. Thank you.
Une heure après, ils sont dans la salle à manger, assis l'un en face de l'autre. Il lui dit,
je sais que c'est dur de perdre la mémoire et de ne plus savoir qui l'on est. Mais tu es entouré de gens qui savent qui tu es, mon amour, et qui t'aiment.
Il lui dit, j'aimerais être sûr de ce que je suis. Mais du moment que je ne sais plus ce que je suis, et puis qui me dit que vous disiez la vérité.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.